Alors pour ce matin, pour commencer, on va commencer avec Romains 8 et verset 31. Si vous voulez tourner avec moi à Romains 8, verset 31, je suis sûre que c'est un verset que vous connaissez. Romains 8, on va commencer au verset 31. Ça nous dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Il y a quelque chose ici qui c'est vraiment une clé pour nos vies. C'est que si Dieu est avec nous, il n'y a pas rien qui peut être contre nous. Il n'y a pas rien qui peut nous nuire. Amen. On sert un Dieu de miracles. Puis il n'y a rien de trop difficile pour lui. Amen. J'ai peut-être pas l'air d'un athlète aujourd'hui, mais il y en a d'entre vous que vous savez que j'ai déjà joué des sports. Peut-être que vous ne saviez pas, mais là, vous le savez. J'ai déjà joué des sports quand j'étais au secondaire. Des fois, avec les adolescents à la jeunesse, je leur dis, « Hey, moi, j'ai joué au basket. Je suis sûre que je pourrais jouer contre toi. Peut-être que je pourrais gagner. Hein? » Et puis, je les remets au défi. Mais qu'est-ce que j'oublie, c'est que j'ai été finissante du secondaire en 94. Alors, peut-être que ça fait un petit peu plus récent qu'eux, ils jouent comparé à moi. Ça fait donc 20 ans que j'ai pas joué. Alors, des fois, juste pour le fun, un petit panier ici, là, mais c'est pas la même chose que des adolescents qui sont actifs en train de jouer le sport. Mais j'ai joué le basketball quand j'étais au secondaire. J'ai fait partie de des équipes où ce qu'on gagnait quand on habitait aux États-Unis. Et puis, moi, j'étais la seule qui réchauffait le banc. Je m'assurais que le banc soit chaud. Comme ça, tous les joueurs, quand ils finissaient de jouer, ben il y avait une place chaude à côté de moi. Mais quand je suis arrivée au Québec, il y avait moins de bons joueurs. Alors, il y avait besoin de moi. Mais vraiment, mon équipe, elle perdait toujours. Elle jouait pour l'école Richmond Regional High School, pour ceux qui connaissent l'école de Richmond. On jouait contre Alexander Gold, contre le Triolet, les écoles ici. Et puis, on perdait toujours. Il y avait quelque chose qu'on n'avait pas sur notre équipe, c'était plusieurs bons joueurs. Alors, moi puis une de mes amies, on était les tops. Et puis, alors, mais on faisait quand même des baskets ici et là. Mais on réussissait pas à faire gagner notre équipe. Mais qu'est-ce que chaque équipe a besoin? Puis on peut le savoir si vous êtes des amateurs de hockey ou de sport, puis vous écoutez ça à la télévision. Qu'est-ce qu'ils vont toujours rechercher, les coachs? Ils vont rechercher un joueur sur leur équipe qui va faire gagner l'équipe. Quelqu'un qu'ils vont prendre, qu'ils peuvent repêcher, puis dire, « Hey, celui-là, j'en ai besoin de lui, parce que lui, il va faire gagner mon équipe. » Quand j'étais également au secondaire, et puis on aimait ça, nous, regarder les games de basketball. C'était le sport que j'ai joué, donc c'est le sport qu'on aimait regarder à la télévision. Et puis dans ce temps-là, pour ceux qui ont déjà écouté le basketball, il y avait un bon joueur qui s'appelait Michael Jordan. Puis si vous avez déjà entendu parler de Michael Jordan, aujourd'hui, si je parle aux adolescents de Michael Jordan, il y en a quelques-uns qui le savent, mais la génération, elle a passé. Alors ma génération, les gens connaissent, c'était qui? Michael Jordan. Les Chicago Bulls, c'était l'équipe sur laquelle que Michael Jordan y jouait. Et puis avec lui dans leur équipe, ils savaient on va gagner. Parce qu'on a un gars dans notre équipe qui est capable de sauter par-dessus n'importe qui pour faire un dunk, qu'on appelle, et puis pour faire un panier, il est capable de sauter, il est capable de faire n'importe quoi. Avec lui dans notre équipe, on va gagner, c'est sûr. Mais nous, en tant que chrétiens, on a encore mieux que Michael Jordan. On a encore mieux qu'une vedette qui va faire gagner une game ou quelqu'un qui va même gagner une médaille aux Olympiques. Parce qu'on a le créateur des Jeux. On a le créateur des êtres humains. On a lui sur notre côté. Alors, combien plus qu'on peut gagner chaque chose? Alors, notre premier point ce matin, c'était si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La majorité est dans notre équipe. Alors, c'est sûr qu'on va gagner parce qu'on a Dieu sur notre côté. Amen. Il faisait des choses extraordinaires, Michael Jordan, mais Dieu en fait encore plus. Amen. Quelle sorte de choses est-ce que Dieu y fait qui est encore meilleur que Michael Jordan de juste pouvoir sauter? Hey, rien là, sauter. Dieu est capable de séparer une mer au complet. Il est capable de séparer la mer. Et puis, d'autres choses qu'il fait, il est capable de faire que le soleil, il a demeuré sans bouger pour la journée pour que Josué et son armée puissent gagné la bataille. Amen. Alors le soleil a demeuré fixe. Il est capable de fermer la bouche des lions quand que Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Il est capable de guérir un roi comme Naaman de la lèpre. Il est capable de pourvoir aux besoins, même d'une nation complète. Quand que la nation était dans la famine, prêt à manger leurs fils et leurs filles, merci Seigneur que même si on voit des famines aujourd'hui, outre-mer, on les voit jamais en train de vouloir manger le fils de l'un ou de l'autre. Je pense qu'ils préfèrent tout mourir que de faire quelque chose comme ça. Merci Seigneur qu'on n'est pas dans ces jours-là. Amen. Ni nos enfants. Amen. Mais Dieu est capable de tourner la situation en une journée. Ces gens-là, ils ont eu tellement à manger. Il est capable d'amener la guérison à chacun. Amen. Parce que c'est une petite chose pour lui, comparé avec toutes les autres choses qu'il peut faire, de nous amener ce qu'on a besoin. Hey, c'est pas grand-chose. Amen. On va regarder une petite histoire dans 2 Rois et chapitre 6 et verset 15. 2 Rois, chapitre 6 et 15. 2 Rois 6, 15. Si vous êtes déjà là, je vais le lire, je l'ai ici. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Et au verset 16, il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et au verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors ici, on peut voir une situation où ce que Élisée était, la ville était entouré de gens qui voulaient le tuer, des gens, puis ils étaient très nombreux. Alors, le serviteur d'Élisée, il dit, « Hey, qu'est-ce qu'on va faire là? On va crever ici. Ils sont plus nombreux que nous. » Puis sûrement qu'ils se disaient, « Ils sont plus puissants que nous. » Puis, « Hey, là, on est en danger. » Mais Élisée, c'est quoi la chose qu'il a dit? Peu importe qu'est-ce qu'il pouvait voir dans le naturel, combien d'hommes étaient là. Il a dit au verset 16, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Il savait, la majorité est avec nous. Puis il pouvait voir, il a fait que les yeux soient ouverts de son serviteur pour qu'il puisse voir dans le domaine spirituel qu'est-ce qui se passait vraiment. Puis quand il a ouvert ses yeux, puis il a pu voir dans le domaine spirituel, il a vu sur la montagne tous les chars et le feu et des anges qui étaient là. Les chariots là, d'anges qui étaient là sur la montagne, puis il dit, wow, ça là, c'est grandiose. C'est plus grand que n'importe quel homme dans le naturel qui peut essayer de venir contre nous. Il a pu voir quelque chose, c'est que la majorité est avec nous. Si on a Dieu dans notre équipe, on a Dieu sur notre côté, on a la majorité. Puis si on pourrait voir dans le domaine spirituel, on arrêterait d'avoir des craintes. On arrêterait d'avoir peur parce qu'on dirait, hey, wow, hey, Dieu est avec nous, on a la majorité sur notre côté. Amen, Dieu est sur notre côté, il est pour nous. Il n'est pas contre nous, il n'est pas juste là pour nous tester. Amen, merci Seigneur qu'on sert un Dieu qui est bon. Il est dans notre équipe. S'il est dans notre équipe, il veut nous faire gagner. Une chance que Michael Jordan, quand il jouait avec les Chicago Bulls, il ne disait pas, ben aujourd'hui, ça ne me tente pas de gagner. Aujourd'hui, là, je vais vous laisser l'équipe, là, puis moi, je vais aller là, puis je vais juste vous tester aujourd'hui. Je vais vous lancer le ballon raide, puis on va voir si vous autres, vous êtes capables de faire des baskets. Non. Il se disait, je suis dans votre équipe, à cause que vous êtes avec moi, on va gagner, je vais vous faire gagner. Et puis, on sait que Jésus est venu pour nous donner la vie. Et puis, la vie en abondance. La vie en abondance, c'est une bonne vie. Amen. C'est une vie de guérison. C'est une vie de miracle. C'est une vie qui est au-delà de la normale. Si vous regardez vos voisins qui vivent une vie normale, où ils ont leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, leurs autos, leurs piscines, leurs chiens, leurs chats, mais Dieu veut que vous ayez non seulement ces choses-là, mais une vie abondante encore, parce que encore plus, pour être une bénédiction à votre voisinage. Amen. Que les gens, au lieu que ça soit toujours vous qui êtes dans le besoin, vous allez vers eux pour leur amener la délivrance qu'ils ont besoin. Amen. On a Dieu sur notre côté, il est dans notre équipe. Amen. Et puis, on sait qu'il a la puissance pour faire toutes choses qu'on a besoin. Amen. On n'est pas obligé de tout être des bons joueurs. Je suis sûre que dans l'équipe de les Chicago Bulls, c'était pas tous des bons joueurs, mais il y en avait un qui faisait gagner l'équipe. Amen. On n'est pas obligé d'être parfait. Amen. On a Dieu sur notre côté. On a Dieu qui nous aide. Amen. Puis il est là pour combler nos faiblesses, remplir nos besoins. Amen. Je pense qu'on n'aura jamais assez atteint pour, on essaie toujours de rejoindre son niveau, mais on sera jamais assez parfait. Alors, on est mieux de le réaliser et puis juste dire, hey, Seigneur, je suis reconnaissant que tu es avec moi. Tu es dans mon équipe. Tu me fais gagner. Amen. Pourquoi qu'il est pour nous? Parce qu'il nous aime. Une chance qu'il nous aime. Une chance qu'il n'est pas juste, je suis pognée avec les autres dans mon équipe, là, qu'est-ce que je vais faire? Une chance que Michael Jordan, il haïssait pas son équipe. Amen. Mais il a fait de un de ses joueurs, si vous connaissez, là, je vais vous enseigner sur les Chicago Bulls ce matin, Scottie Pippen, s'il y en a qui le connaissent, tu qui le connaissent? Michael Jordan? Hey, merci, merci, Juan. Et Scottie Pippen, c'était un autre joueur dans son équipe. Il a fait de lui un grand joueur. Parce qu'ils ont appris à travailler ensemble. Ils ont appris à faire des grandes choses. Amen. Mais Michael Jordan, je suis sûr qu'il aimait son équipe. Mais Dieu nous aime encore plus parce que c'est lui qui nous a créés. Amen. Je sais que tous les parents y aiment leurs enfants. Amen. Quand vous voyez leurs défauts, ben vous savez que c'est votre conjoint puis c'était pas vous autres. Mais vous avez choisi de marier votre conjoint. Amen. Alors vous vivez avec. Mais vous savez que tous les bons côtés, ça vient de vous puis vous les aimez. Amen. Amen. Quand on sait que quelqu'un nous aime, on sait qu'ils veulent notre bien. Amen. Moi, je veux le bien de mes enfants. Amen. Dans Romains 8 et verset 32, on avait commencé tantôt à Romains 8, verset 31. Là, on va aller à verset 32, tout de suite après. Ça nous dit, Romains 8 et verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Il y a une chose à propos de Dieu, qu'il ne retient rien. Il n'a pas dit, ben là, je vais vous en donner un petit peu de guérison, puis là, le reste, ben attendez à plus tard. Je ne sais pas combien d'entre vous que vous êtes déjà arrivés à Noël. On sait que Noël approche déjà, même si on n'était pas prêt. On peut pas aller à un magasin qui sont déjà en train de nous bombarder par « C'est Noël, fais ton magasinage tout de suite! » On dirait qu'ils veulent toujours pousser les saisons. On va être en janvier, puis ils vont essayer de nous vendre des costumes de bain parce que ils sont en avance pour nous. Si tu te cherches un manteau d'hiver en disant janvier, oublie ça, là, c'est juste des maillots de bain puis des shorts. Je trouve que c'est à l'envers un peu, mais c'est comme ça. Mais combien d'entre vous, vous êtes déjà arrivés à Noël et puis c'est peut-être que vous aviez des enfants, c'était le 25, puis les enfants, ils ont attendu longtemps pour Noël, puis ils vous ont donné leur liste, et puis ils ont attendu. Puis on est arrivé, c'est le 25, ou peut-être si vous fêtez Noël le 24, peu importe. Et puis là, c'est Noël, puis là, tu as une pile de cadeaux, puis ils ont hâte de les ouvrir. Puis tu leur dis, attends une minute, là, je t'en donne juste un, le restant, je vais te le donner l'année prochaine. Ou je vais te le donner à ta fête 6 mois plus tard. Tu as le droit à juste un cadeau. Combien d'entre vous, vous avez déjà fait ça à vos enfants? Vous leur avez dit, je t'en donne juste un, le reste, tu attends. T'es pas assez bon, ou je vais attendre à demain, puis le demain, tu dis attends à demain, puis attendre, puis attendre. On ferait pas ça à nos enfants. Pourquoi? Parce qu'on les aime. C'est le matin, puis s'ils sont pas encore réveillés, on leur dit, vite, réveille-toi, j'ai assez hâte que t'aies le cadeau que je t'ai acheté, j'ai assez hâte, ah ouais, vite, ouvre-le. Et puis ils se dépêchent, puis ils vont l'ouvrir, puis après ça, tu y ajoutes un autre, puis un autre, puis un autre, puis si tu vois qu'ils sont pas assez contents, puis là, le 26, tu retournes, ben acheter d'autres cadeaux à moitié prix, amen. Mais si nous, on est comme ça, imaginez Dieu. Il est encore pire que nous. Des fois, nous autres, on pense en tant que parents, tu sais, je suis trop, je garde trop mes enfants. Mais j'ai appris de ma mère, c'est pas de ma faute, mais que Dieu, il est encore pire que nous. Parce que Dieu, lui, c'est encore plus, c'est en abondance. C'est envoyé, je veux t'en donner plus. Je veux que tu saches que je veux te donner plus. Dieu, c'est un Dieu qui donne la vie en abondance, puis il veut toujours donner plus. Il n'y a pas personne sur la terre qui peut donner plus que Dieu. Alors, si vous pouvez imaginer qu'un être humain ne peut même pas donner autant que Dieu peut donner, hey, on sert un Dieu qui donne et qui veut qu'on ait encore plus. S'il n'a pas été capable de juste dire, ben Jésus, non, c'est trop un beau cadeau pour eux, je leur donne pas Jésus. C'est ce qu'il y avait de plus précieux. S'il était capable de nous envoyer Jésus, ce qu'il y avait de plus précieux, comment il ne donnera-t-il pas aussi toutes choses? Et la guérison fait partie de les choses que Dieu nous donne. Amen. Ça fait partie de l'alliance qu'il a faite avec nous. Amen. De s'assurer qu'on ait pris soin. Amen. On sert un Dieu qui veut notre meilleur. Puis son amour envers nous, c'est la puissance pour guérir. Il nous aime tellement qu'il veut notre bien. Il veut notre guérison. Amen. Jésus, quand il était sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il accomplissait la volonté de son Père. Et c'était quoi sa volonté? C'était tout le bien que Jésus y a fait. Il a toujours guéri les malades. Il n'a pas dit, « Ah, aujourd'hui, je suis fatigué, ça ne me tente pas. Attendez à demain. » Mais non, vous savez, avec les histoires que vous avez entendues, avec tous les autres enseignements qui ont été amenés, même le jour du sabbat, il guérissait. Même il, sur le chemin, il s'en allait en quelque part guérir une petite fille qui était sur le point de mort, puis la femme avec l'issue de sang est arrivée le déranger. Il n'a pas dit « Attends ton tour, là. Toi, t'es deuxième en ligne. » C'est pas comme quand tu vas à l'hôpital, puis là, t'attends ton tour, t'attends 3 heures avant de voir un médecin, et puis là, t'attends et t'attends. Non, avec Dieu, c'est tout de suite. La guérison, c'est tout de suite. Et puis, tout de suite, cette femme-là, elle était guérie, peu importe qui que c'était. Les gens qui criaient, « Jésus, aie pitié de moi! » Tout de suite, Jésus allait. Il était prêt à chaque instant. Et puis, quand il est parti, il dit, « Ça va être encore plus avantageux pour vous parce que je vous envoie mon Saint-Esprit qui va pouvoir être partout, en tout temps, disponible pour faire tout ce que vous avez besoin. » Amen. Et puis, si vous avez besoin de guérison, c'est disponible aujourd'hui. Amen. Jésus n'a jamais rejeté personne. Il avait compassion. Il a même été fouetté sur la croix. Il a porté sur lui les maladies pour que plus personne ait à souffrir. Amen. On sait qu'il nous aime. Amen. Et puis, s'il était capable de faire ça, comment qu'il ne nous donnait pas toute chose aussi gratuitement? Ça veut dire qu'on le méritait peut-être même pas, mais il le fait, il nous donne ça gratuitement. Amen. Dans Romains 8, là on va descendre au verset 37. Romains 8 et verset 37. Ça nous dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alors, on sait que premièrement, avec Dieu sur notre équipe, on a la majorité. On est capable de gagner. On sait que deuxièmement, s'il a été capable de nous envoyer Jésus, il va nous donner toutes choses. Il est prêt à tout nous donner. Et puis troisièmement, on sait que nous avons été faits plus que vainqueurs. Et puis, une des définitions que mon mari aime raconter, si vous l'aviez déjà entendu, c'est comme un joueur de boxe. Il n'a jamais été boxeur, mon mari. Ça aurait fait planter. Mais il n'a ni écouté la boxe, parce qu'on n'aime pas écouter les gens se faire blesser. Je ne sais pas comment que les gens y font pour regarder ça, mais moi, j'aime pas regarder les gens qui se font mal. Regarder les sports, c'est correct, mais les gens qui ont de la douleur, là, j'imagine que ce serait mon fils, je suis en train de jouer à la boxe, puis je ne peux pas imaginer ça. Mais imaginez un champion de boxe, qu'il gagne toujours. Et puis, il a dû se préparer, s'entraîner pour gagner à la boxe, et puis, il a battu quelqu'un, puis il a gagné un record mondial, ils ont donné un chèque, un certificat. Alors, tous ses efforts, toute l'année, il vient de vaincre, il vient de gagner. Mais vraiment, pour être plus que vainqueur, c'est pas juste de gagner. Mais c'est l'homme qui retourne à la maison avec son chèque après avoir fait tous ces efforts-là. Et puis, il donne à sa femme. Et puis, il dit, « Voici un cadeau pour toi. Dépense-le de la façon que tu veux. Et puis, c'est à toi. » Elle est plus que vainqueur. Pourquoi? Elle n'a pas été obligée de se battre pour l'avoir. Elle n'a pas eu rien à faire pour avoir cet argent-là. C'est quoi qu'elle a dû faire? Être en relation avec son mari, en étant mariée. À cause de l'alliance qu'ils ont en tant qu'homme et femme, elle avait eu droit à ce cadeau qui lui a été donné gratuitement. Puis c'est quelqu'un d'autre qui a battu pour elle, quelqu'un d'autre qui a été au combat pour elle. Puis elle peut juste avoir le bénéfice de cela. Mais c'est comme ça avec nous, avec Dieu. Amen. Dieu, il a battu pour nous. Tout ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a récolté du résultat. Amen. À cause de notre relation, notre alliance que nous avons avec lui. Nous avons des droits, nous avons des choses qui nous appartiennent. Et puis, tout ce qu'on fait, c'est qu'on les prend, on le garde et c'est à nous. Amen. Et on peut l'utiliser. Cette femme-là a pu aller à un magasin, aller magasiner et puis bénéficier de la relation qu'elle a avec son mari à cause du combat qu'il a gagné. Mais nous, la guérison, ça fait partie de les bénéfices de notre relation avec Dieu. Il a battu, il a combattu pour nous et puis il a fait de nous des plus que vainqueurs. Lui, Jésus, quand il était venu, sur la terre, et puis il s'est battu contre l'ennemi. Quand il était passé 3 jours en enfer, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, et puis il est ressuscité le 3e jour, et puis il a dit, maintenant j'ai vaincu, et puis il n'y a plus autre nom, son nom est plus haut que tout autre nom, il n'y a pas d'autre nom à qui que les gens ils peuvent se fléchir, mais le nom de Jésus, c'est plus puissant que tout. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu. Il a battu, il a combattu pour nous, puis il a défait celui qui régnait sur la terre, qui était le diable. Puis il l'a fait pour nous. Amen. À cause de notre relation avec lui, nous avons maintenant la guérison. Nous avons maintenant tout ce qu'on a besoin. Amen. Et à cause de ça, à cause de qu'est-ce qu'il a fait, nous, on n'a pas à se battre pour l'avoir. À cause que lui a battu, la femme du boxeur, elle a pas besoin d'aller se battre pour avoir un chèque. Son mari a battu pour elle. Nous, on n'a pas besoin de se battre d'un sens dans le naturel pour obtenir des promesses de Dieu. On se bat de quelle façon? En entrant dans le repos de Dieu, qu'il pourvoit pour nous. On se tient ferme dans la foi, mais on n'a pas besoin d'aller se battre contre l'ennemi. On se tient. C'est dans notre position que nous avons, en ayant une relation avec Dieu, que lui, il combat pour nous. Lui, il a fait les choses pour nous. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit. On est là, puis on se reçoit, et on se tient dans sa parole. On va aller à Hébreux 4. On va regarder versets 1 à 3. Dans Hébreux 4, notre bataille, c'est d'entrer dans le repos que la foi nous pourvoit. Dans le repos de Dieu, sachant que c'est lui qui prend soin et c'est lui qui a tout accompli. Dans Hébreux 4, versets 1 à 3, ça dit, « Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit, cela, quoique ses œuvres eussent achevé depuis la création du monde. Mais non, nous autres, on sait qu'on peut rentrer dans son repos parce qu'il a battu, il a combattu pour nous, il a gagné. Maintenant, on peut entrer dans le repos. C'est quoi le repos? C'est de savoir. Il n'y a pas rien que je peux faire dans le naturel à part de juste recevoir et savoir que c'est lui qui l'a tout fait pour moi. Amen. On entre dans ce repos-là. C'est un repos de savoir que on est vainqueur. Je ne sais pas si l'un d'entre vous, vous avez déjà écouté un film et puis quelqu'un vous a dit la fin. Vous saviez la fin du film. Alors même si c'était stressant, ça vous dérange pas. Vous savez la fin. C'est pour ça que mon mari, lui, aime les films de super-héros. Parce qu'il sait, le super-héros, il va gagner. Il sait déjà la fin du film. Alors, pendant qu'il l'écoute, il n'est pas stressé. Il ne se demande pas qu'est-ce qui va se passer. Il n'est pas en train de tout ruger ses ongles. Mais il sait, ah, Superman, il va gagner. Voyons, il n'y a rien qui peut le défaire. Iron Man, il va gagner. Spider-Man, c'est sûr. Tous les super-héros. Alors, ils les aiment toutes. parce qu'il sait la fin du film. Mais c'est la même chose avec nous. Nous, on sait, on est vainqueurs. On va gagner. Jésus a combattu le diable pour nous. Dieu est sur notre côté. On connaît la fin. Alors, on peut entrer dans ce repos-là, sachant, sans être stressé de la vie, sachant que on gagne. À la fin, on gagne. Il n'y a pas rien qui peut nous arriver qui peut enlever le fait que nous, on va gagner. Alors, on peut entrer dans ce repos-là. Vous savez la sorte de film que mon mari déteste? Les drames. J'ai fait écouter un film une fois, puis tout au long, on était stressés parce que le gars, il n'avait pas une bonne relation avec son père, et puis c'était stressant. Tu sais, les drames, c'est toujours émotionnel, puis ça le tirait. Puis à la fin du film, finalement, il dit à son père que là, il marche sur le droit chemin. Paf, il meurt. Et puis le film est fini. Alors, Brian, il dit, plus jamais j'écoute un film que c'est écrit drame. OK, je veux rien savoir. J'aime savoir la fin. J'aime quand que il gagne. Amen. Alors, j'ai pas le droit à mes films, c'est juste les siens. C'est lui qui règne. Mais il a raison. J'aime savoir que le bon, il va gagner. Amen. Parce que c'est comme nous. On sait qu'avec Dieu, on gagne toujours. Amen. Dans Ésaïe 40 et verset 31, ça nous dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » C'est quoi qu'on fait quand on entre? Voici une situation, quelqu'un qui entre dans le repos de Dieu. Tu es au repos parce que tu sais que c'est lui qui te fait gagner. Tu sais que c'est lui, avec lui, tu peux vaincre. Ça dit ici, mais ceux qui se confient en l'Éternel, il n'est pas là à rien faire, assis sur son divan. Bon, ben, je sais que je vais gagner. Fait que je vais aller me coucher. Oui, reposez-vous dans le naturel. Mais je veux dire, dans son esprit, c'est pas quelqu'un qui fait rien. Mais c'est quoi qu'il fait pendant qu'il est au repos? Il se confie en l'Éternel. Puis à cause qu'il se confie en l'Éternel, il y a quelque chose de surnaturel qui arrive. Ses forces, ils sont renouvelées. Alors, tu te sentais faible avant, mais à cause que tu te confies en l'Éternel, ça renouvelle tes forces. Tu prends le vol comme des aigles, on court, on se lasse point, on marche, puis on se fatigue pas. Hey, c'est merveilleux. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous, pour entrer dans ce repos-là, de savoir que c'est avec lui, on a toujours la victoire. Mais c'est quoi la clé de ce verset? C'est de se confier en Dieu. Dans Psaume 55 et verset 23, plusieurs différentes traductions le disent différemment, ça dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Un autre verset nous dit « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel. Rejette ta charge à l'Éternel. » C'est quoi un fardeau ou un poids? Une charge, c'est quelque chose qui peut venir peser sur nos épaules, quelque chose de lourd. Si on se confie en Dieu, on porte pas ces choses-là. On apprend à se décharger, à confier, à remettre ces choses-là dans les mains de Dieu, et puis nous, on ne les porte plus. Un fardeau, c'est lourd, ça pèse sur ton intelligence, dans ton cœur. Tu es tenté de t'en faire à propos de ça. Tu as peur d'être déçu, tu es même dans la peur quand tu as un fardeau. Alors, c'est comme ça qu'on peut le reconnaître. Aussitôt qu'on a quelque chose qui vient peser sur nous, qui vient venir comme une pesanteur, immédiatement, qu'est-ce qu'on doit faire? Le jeter sur lui, se décharger sur Dieu, l'enlever. Amen. On n'a pas été créé pour les porter les fardeaux, on a été créé pour les remettre à Dieu. Amen. Il a dit qu'il les porterait pour nous. Il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, parce qu'il est capable d'en prendre soin. Amen. Il est le meilleur mécanicien, le meilleur chirurgien. Amen. Il est celui qui peut en prendre soin. On n'a pas à les porter. Moi, si je décide d'aller faire de l'épicerie ou d'aller au magasin faire des courses, j'ai deux options. Soit un, je peux y aller avec ma petite fille de 2 ans, et puis je peux décider, je vais aller faire mon épicerie, puis si j'ai plusieurs commissions à faire, je vais voir que finalement, je vais juste finir par faire une commission. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un à traîner. Oui, je l'aime beaucoup, mais si j'ai à traîner ma petite fille, son sac à couche, puis l'entretenir entre ça, puis pendant qu'elle lance des pommes puis des bananes à l'épicerie, puis elle veut tout mettre dans le panier ou elle veut débarquer du panier, puis Ça peut me prendre une heure au lieu de 20 minutes. Mais si je me décharge sur mon mari et puis je la laisse à la maison, elle dort un après-midi, qu'est-ce que je me dis de faire? Bon, ben là, hey, j'ai 3 heures ou j'ai 2 heures et demie, je peux en faire des commissions. J'ai le temps de faire mon épicerie, d'aller faire d'autres commissions, d'aller au bureau de poste, d'aller à Mal, d'aller me faire faire les ongles, d'aller me coiffer. Bien, c'est pas vrai. Mais j'ai le temps de faire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que j'ai rien, j'ai aucun poids. Je suis libre, je suis seule, je m'en vais faire mes affaires que j'ai besoin de faire et c'est léger. Mais si j'ai quelqu'un sur ma charge, hey, je peux en faire moins. Mais c'est juste un exemple pour vous démontrer comment qu'avec Dieu, on n'a pas été fait pour porter des fardeaux et des poids. Parce que les fardeaux et les poids, les choses, ça nous arrête, ça nous empêche d'avancer. Et quand on rentre dans le repos, on veut vraiment se reposer en Dieu. On se décharge sur lui. C'est la seule façon de ne pas porter ces choses-là. Dans le verset qu'on vient de lire, dans Psaume 55, ça nous disait « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » De soutenir, c'est de garder, de nourrir, de pourvoir, de diriger, de tenir, maintenir quelqu'un debout, l'empêcher de tomber, l'empêcher de s'affaiblir, redonnant les forces, conserver, combattre en leur faveur. Et c'est ce que Dieu y fait pour nous. Il combat en notre faveur. Amen. Il prend soin de nous. Amen. Je vais juste vous lire quelques versets en terminant. Dans Exode 15, verset 26, ça nous dit, il dit, « Si tu écoutes attentivement à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, je te frapperai d'aucune de ces maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Mais il y a une autre chose clé ici à ce verset. On sait qu'il est le Dieu qui nous a guéri, mais on fait ce qui est droit à ses yeux. Amen. Si on prête notre oreille à ses discours, on prend attention à ce qu'il a à nous dire, il est notre guérisseur. Amen. Amen. Dans Exode 23, juste un petit peu plus loin, verset 25, ça nous dit, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain, vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Il veut remplir le nombre de nos jours. Amen. L'idée, c'est si on demeure avec lui. On reste dans le repos. On sait qu'on gagne, on sait qu'on a la victoire. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans son repos. On veut le servir, on veut suivre son plan. On se donne entièrement à lui. Puis lui, il prend soin. Amen. Moi, j'avais un cousin qui m'avait toujours dit, le diable, je sais qu'il attaque les chrétiens. Fait que moi, si je suis pas le plan de Dieu, ben le diable il va pas m'attaquer parce qu'il s'acharne après les chrétiens. Fait que je vais être libre de faire comme que je veux, puis je serai pas attaquée par le diable. Fait que dans ce temps-là, on était adolescente, on savait pas trop quoi dire, puis on était comme ouais, c'est vrai hein. C'est vrai que si le diable il attaque toujours les chrétiens, les gens, parce que la Bible nous dit qu'on va être persécutés et puis tout ça, puis si on marche pour Dieu, on va se faire attaquer. Mais il y a une chose qu'il nous manquait, c'est de la sagesse un peu pour y répondre. Quand que tu t'enlèves sous la protection de Dieu, tu es vraiment une cible pour l'ennemi. Mais peut-être que le diable il peut nous attaquer, mais il y a une chose, c'est qu'il ne gagnera jamais. Peut-être que la flèche peut essayer de venir, mais elle ne va pas nous atteindre. Pourquoi? Parce qu'on est sous la protection de Dieu quand on est dans son plan. Amen. Et c'est ce que ces versets-là nous disent ici dans Exode 15 et 23. On demeure avec lui, on le sert, on est sous sa protection, il prend soin de nous. Quand que j'explique ça à les classes des enfants, je leur montre un parapluie. La personne qui sert Dieu, la personne qui prête son oreille à Dieu, qui veut servir Dieu, qui se décharge sur Dieu, c'est la personne qui marche sous le parapluie avec la protection de Dieu. Mais l'autre personne qui dit, ben moi, je veux vivre ma vie, je veux faire mes choses, c'est la personne qui n'a pas de parapluie. Puis quand la tempête, elle arrive, parce que la tempête, elle arrive à tout le monde, c'est qui est atteint? c'est ceux qui ne marchent pas avec la protection de Dieu. Amen. Peut-être que les flèches, ils peuvent essayer de venir. Peut-être que les symptômes, ils peuvent s'élever contre nous. Peut-être que l'ennemi essaie d'envoyer toutes sortes de choses contre nous. Puis on se dit, c'est parce que je suis un chrétien, c'est parce que je suis le plan de Dieu. Je suis persécuté comme ça. Mais il y a une chose, c'est que dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Même si les choses essaieraient de nous atteindre, on est plus que vainqueurs. On a la majorité avec nous et Dieu il nous soutient. Amen. On va terminer avec une histoire dans 2 Chroniques 20. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de cette histoire. 2 Chroniques 20, versets 1 à 5. Je vais tourner rapidement. 2 Chroniques 20, versets 1 à 5. Ça dit, « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec ceux qui, avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. » Et ils sont à Assad et toutes les places. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour toute Juda. Juda s'assemblant pour invoquer l'Éternel et l'on vit de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et puis si on descend au verset 12, ça dit, « Ô notre Dieu, n'exauceras-tu pas tes jugements contre eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Il y a une chose au moins, ils ont amené tous les hommes, les femmes, les enfants à regarder à Dieu. En sachant, on se décharge notre fardeau sur Dieu et puis on sait que lui prend soin. Au verset 13, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Au verset 14, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée de Jacuziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de tout ça, d'entre les fils, tout ça. Verset 15. Et Jacques dit, « Soyez attentifs, tout Juda et les habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi je vous parle, Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » On sait ici que c'est une bataille, que les gens s'en venaient contre Josaphat puis étaient beaucoup plus nombreux et puissants et tout ça. Mais Dieu leur a dit, c'est pas à vous de vous combattre, c'est à moi. Amen. Tellement souvent dans nos vies, c'est pas à nous qui va se combattre. Dieu, il combat pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on entre dans son repos, on garde nos yeux sur lui, on rejette nos fardeaux sur Dieu, et puis en gardant nos yeux, on sait qu'on gagne toujours. On sait que nous avons la victoire en Dieu. Amen. Il combat pour nous, il s'assure qu'on va gagner. Amen. On doit se positionner, se placer en lui, et on va recevoir toujours. Amen. On sait que, on va sauter au verset 17. Ça nous dit, « Vous n'aurez point à vous combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Et on sait la fin de l'histoire au verset 22. C'est dit, au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaçait une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Seir et qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Alors, on sait qu'ils ont gagné. Mais Dieu leur a dit, je vais me combattre pour vous. Je vais faire les choses. On n'a pas à se soucier. Amen. Jésus a tout accompli quand il est venu mourir à la croix pour nous. Il a accompli cela pour que nous, tout ce qu'on ait à faire, c'est garder nos yeux sur Dieu et recevoir. Amen. On n'a pas à s'en faire, à se soucier. On sait que la bataille n'est pas la nôtre, mais la sienne. Je veux juste vous lire quelques versets dans Exode 14, 14. L'Éternel, ça dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Pourquoi qu'il leur avait dit ça? C'était juste avant de traverser la mer Rouge. Il voulait pas les entendre chialer. Il voulait pas entendre autre chose. Je vais combattre pour vous. Gardez le silence. Deutéronome 1, verset 30, ça dit, « L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. » Amen. On sait que Dieu, il a nos pensées à tête. Amen. Il sait notre avenir plus que n'importe qui peut assez pour la connaître. Amen. Et l'avenir pour nous, c'est la victoire. L'avenir pour nous, c'est qu'on gagne. C'est qu'on est vainqueur. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait jusqu'à ce qu'on voit toute la manifestation de tout ça? On garde nos yeux sur lui. On remet nos fardeaux. On porte pas ces fardeaux-là. Mais on se confie en lui. Amen. On va prendre un temps ce matin pour prier pour des requêtes qu'il pourrait y avoir des gens ici si vous avez besoin de guérison. On avait dit qu'on prendrait un temps tous les jeudis pour prier.